La Bourse avec Lexmark, fournisseur de services et de solutions d'impression pour l'entreprise.
Tendance à la hausse, toujours à la hausse, Antoine Verlin.
Eh bien oui, Claire, le CAC 40 qui a quand même perdu 7,60% depuis le 9 mai s'offre aujourd'hui un petit rebond technique. Il s'apprécie de 0,56% à 4 936 points actuellement, avec un volume d'affaires de 4,3 milliards d'euros négociés. L'absence de statistiques américaines permet aux investisseurs de se concentrer sur l'actualité valeur, et comme celle-ci est relativement attrayante, eh bien les indices remontent. Outre la publication de trimestriels de bonne facture, les achats à bon compte vont bon train après plusieurs séances de consolidation. Donc, et puis Arcelor participe également au redressement de la tendance, alors que Mittal Steel a relevé son offre sur le groupe européen. Arcelor bondit de 10,82% à 35,45 €. Côté devise, l'euro est stable à 1,2766 $. Et puis concernant les cours de l'or, à Londres, l'once abandonne 11,50 $ à 682 €. Le lingot est à 16 900 $, le Napoléon à 97 €. Je vous rappelle le CAC 40, plus 0,55% à 4 935 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du quintet à Auteuil, pour gagner, il fallait jouer le 10, le 20, le 6, le 8 et le 11. 10, 20, 6, 8 et 11. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, 30 ans jour pour jour après le premier tirage du premier loto, le 19 mai 1976, une histoire de la loterie. Pendant que mes sujets se livreront à la loterie, ils oublieront fort à propos de s'injurier, de se battre et de blasphémer Dieu. François Ier. D'histoire. Cocher 6 numéros sur une grille de 49 cases, ça peut, on le sait, rapporter gros. C'est en tout cas ce dont rêvent des millions de Français depuis qu'il y a 30 ans a été inventé le loto. Mais ni les Français ni leur gouvernement n'ont attendu le loto pour aimer la loterie. Les premiers pour avoir une chance infime de gagner le gros lot, les seconds pour le gagner à tous les coups et renflouer les finances de l'État par le seul impôt qui n'a jamais mécontenté personne puisqu'il est volontaire. Cela, depuis 500 ans, tous les rois de France et toutes les républiques l'ont compris. François Ier, en créant la première loterie en 1539, Louis XV avec la loterie royale, qui changeait bien entendu de nom avec la République en devenant la loterie nationale. Et enfin la Ve République avec le loto, dont les premiers joueurs ont coché leur première grille il y a 30 ans. France Inter, André Lemas, le 6 mai 1976.
Après la loterie nationale, le tiercé, le quarté, voici le loto national, un nouveau jeu de chiffres et de hasard que les Parisiens vont expérimenter dès le 19 mai. Claudine Roy, vous qui savez tout sur le loto.
Sachez tout d'abord, si vous habitez la région parisienne, que vous trouverez dès demain les carnets nécessaires au jeu dans les bureaux de tabac ou chez les marchands de billets de loterie nationale, signalés par l'enseigne tricolore du loto. Ces carnets coûteront 20 centimes. Ils comprennent chacun 10 tickets de 8 grilles numérotées de 1 à 49.
Amis du loto, bonsoir.
On y va ?
Merci, Mick, on y va. Première boule. C'est le numéro 3. Deuxième boule. Troisième boule.
Patrick Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de finances et de mathématiques appliquées à l'université de Strasbourg et à Paris Dauphine, et vous avez écrit un livre un livre sur le comportement des joueurs, une approche scientifique du jeu, la Lotomania, un livre au début duquel vous rappelez que le loto, inventé en 1976, a des origines beaucoup plus lointaines, puisque il n'est qu'une des formes de la loterie et que celle-ci existait bien avant le loto.
Oui, en fait, elle existe même sous cette forme de loto depuis pratiquement 500 ans. Et l'origine, on peut la faire remonter au doge de Gênes qui a décidé de s'entourer de conseillers et pour ne pas commettre d'injustice, il les choisissait au hasard parmi des sénateurs. Et donc les Génois ont commencé à parier sur les noms des sénateurs qui allaient être tirés au sort.
C'est ce qu'on appelait la loterie génoise, alors vous le précisez, on pariait, alors donc on choisissait au sort les sénateurs ou les conseillers du doge qui étaient tirés dans une liste de 90 candidats. Alors on jouait sur ces gens-là, hein. Vous rappelez que quand on jouait sur un seul des ceux qui étaient nommés, on appelait ça l'extrait, 2 c'était Lambe, 3 c'était Terne, 4 Caterne, 5 Kine, bref c'était une espèce de quintet en quelque sorte dont les chevaux étaient tout simplement des conseillers municipaux.
Oui, et donc une différence peut-être avec le loto d'aujourd'hui, c'est qu'on pouvait faire des paris sur un seul nom, sur deux noms, trois noms, alors qu'aujourd'hui, les paris sont composés et ce ne sont plus des sénateurs, ce sont des numéros.
Alors c'est une formule qui séduit François Ier, qui lui est à l'origine de la première loterie française qui s'appelait la Blanque, je crois. Pourquoi ce nom ?
Alors en fait, c'est lié simplement à la couleur des billets. Donc il y avait à la fois des billets blancs et des billets noirs, les billets blancs étant gagnants, les noirs étant perdants. Et donc ça s'est appelé la Blanque du fait de cette couleur particulière pour les billets gagnants.
Quel est l'objectif de François Ier, comme de tous ceux d'ailleurs qui ont inventé des loteries en France ?
Alors, ailleurs. De ce point de vue-là, les objectifs annoncés, c'est en fait de discipliner un petit peu les joueurs qui jouent de manière excessive, mais je crois qu'on peut penser le problème, c'est qu'ils jouaient surtout à des loteries étrangères, et donc c'était de l'argent perdu. Et donc l'objectif réel, c'est d'amener des financements pour l'État qui en a besoin dans toutes les périodes et dans tous les pays.
Alors pour François Ier, cette Blanque, cette première loterie française date de 1539. Elle a assez peu de succès, je crois, au début, parce que les billets étaient un peu chers.
Oui, donc c'est un premier lancement, mais qui n'était donc pas sous forme de loterie génoise, donc peut-être moins attractif pour les joueurs. On aura l'occasion de retrouver ce manque d'attractivité plus tard des loteries qu'on appelle passives. Et donc, il va y avoir quand même une période de creux après cette Blanque, avant de retrouver des loteries à succès.
Il y a Louis XIV également qui a eu un très grand succès avec sa loterie. En revanche, justement, Louis XV en aura beaucoup plus en écoutant les conseils d'un homme plus connu pour ses conquêtes féminines que pour ses talents de financier, Giacomo Casanova.
Messieurs, il s'agirait d'instituer la loterie en France. Une loterie à 90 chiffres, sur lesquels 5 seulement seront gagnants, qui pourraient être tirés au sort une fois par mois.
Qui devra la financer ?
Le trésor royal, par décret. Il suffira que l'on croie le roi capable de payer jusqu'à 100 millions. Ce qu'il faut, c'est éblouir.
Mais le roi pourrait les perdre.
Monsieur Casanova, dès le premier tirage, le roi pourrait perdre une somme d'argent aussi importante ? Combien demandez-vous pour organiser cette loterie ?
10% des bénéfices.
Le décret stipule que la loterie de France aura sa maison mère, 6 rue Montmartre. Les billets gagnants seront payés 8 jours après le tirage.
Silence ! S'il vous plaît, silence !
Numéro 27 !
Numéro 27 !
Giacomo, la recette est énorme ! 2 millions de francs !
Oui !
Tu es riche ! Riche ! Riche !
Alors, grâce à la loterie de Louis XV, Casanova fera en effet fortune, les finances royales aussi, bien entendu. Il s'agissait, je crois, vous le dites, Patrick Roger, de financer la construction d'un bâtiment très célèbre à Paris, tout simplement l'école militaire.
Oui, la loterie créée sur le modèle de la loterie génoise en 1757 s'est appelée la loterie de l'école militaire. Mais il y a eu, bien sûr, d'autres loteries pour des œuvres de bienfaisance, la loterie des enfants trouvés, par exemple. Mais ce qui a vraiment fait démarrer la loterie génoise en France, c'est la loterie de l'école militaire.
Alors c'est elle qui a pris ensuite le nom de loterie royale, c'est ça ?
Voilà, en 1776, cette loterie a été transformée en loterie royale et les quelques loteries de bienfaisance ont été, disons en quelque sorte, fusionnées avec la loterie royale pour instituer tout simplement un monopole d'État.
Ça a bien marché, hein. Ensuite, ça a duré assez longtemps. Alors, les critiques, évidemment, elles vont arriver avec la Révolution française. C'est normal, c'était une institution royale. Vous citez deux adversaires du principe même du jeu en général, de la loterie en particulier. Vous citez quelqu'un qui n'avait pourtant de leçon de morale à donner à personne et qui était Talleyrand. Alors, Talleyrand qui considérait que la loterie, c'était immoral par les calamités dont elle était la cause, les ruines, les suicides, et qui disait que ça entretenait l'ivresse générale, ça étourdissait le peuple. Voyez, disait Talleyrand, comme le marchand est détourné de son commerce, l'ouvrier de ses travaux, la mère du soin de ses enfants, tout un peuple de ses occupations journalières. Il y avait aussi Mirabeau, grand adversaire de la loterie, qui disait quel impôt que celui qui fonde son plus grand produit sur le délire ou le désespoir. On propose 1 million pour 20 sous au malheureux qui ne sait pas compter et qui manque du nécessaire. Ça, c'est vraiment amusant parce que ce sont vraiment des débats pour ou contre le jeu, surtout organisé par l'État, qui sont très actuels, Patrick Roger.
Non seulement actuels, mais je dirais permanent dans l'histoire. C'est-à-dire, en fait, on peut distinguer deux types de périodes. Les périodes où l'État a seulement un peu besoin d'argent, et donc là, ce que j'appelle les moralistes reviennent sur le devant de la scène, et donc évoquent, par exemple, comme Talleyrand, à la fois le caractère immoral, vous l'avez rappelé, mais aussi l'injustice. C'est-à-dire que, par exemple, le Kin dans la loterie génoise, on gagne 1 million, mais on a une chance sur 43 millions de gagner. Donc c'est comme si on avait un taux d'imposition de 97%. Donc là, il évoque l'injustice, et puis ensuite tous les drames que peut engendrer le jeu excessif. Et dans les périodes, par contre, où l'État a vraiment beaucoup besoin d'argent, là, ce sont les réalistes qui reviennent sur le devant de la scène en disant, eh bien, la loterie, c'est un impôt volontaire, et donc c'est générateur de recettes pour l'État. Et le dernier élément qui est important à mentionner, c'est que quand on supprime les loteries officielles, elles sont supplantées immédiatement par des loteries clandestines.
Oui, alors c'est ça aussi, du coup, on se dit, il sera encore plus immoral que d'encourager le jeu clandestin. Alors cela dit, ces critiques, la loterie va surmonter la révolution, elle va même d'ailleurs prendre une ampleur considérable grâce à une innovation technique importante. Les loteries, en fait, elles ne pouvaient se pratiquer que sur un petit territoire, et là, il y a l'invention du télégraphe de Chappe qui donne une ampleur considérable à la loterie au début du 19e.
Alors en fait, effectivement, les moyens de communication étant ce qu'ils sont à l'époque, les joueurs doivent être, disons, soit à proximité de l'endroit où on fait les tirages, ou alors, ça peut mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours pour transporter en quelque sorte les résultats, les numéros gagnants, avec toutes les rumeurs qu'on peut imaginer.
Vous dites qu'un homme à Bordeaux, par exemple, pouvait jouer 5 jours après le tirage qui avait lieu à Paris.
Alors encore quelques jours après, et donc effectivement, vous imaginez que des individus mal intentionnés peuvent dire je connais le résultat et vendre des tuyaux en quelque sorte et faire courir des rumeurs.
Alors elle est interdite, hein, non pas par la Révolution, non pas par l'Empire, mais par la monarchie, même pas d'ailleurs par la Restauration de Charles X. C'est sous Louis-Philippe qu'elle est interdite en 1836. Là, les moralistes l'emportent, Patrick Roger.
Alors ils l'emportent, mais disons qu'ils sont à l'œuvre depuis pratiquement une dizaine d'années. À la fin des années 1820, commencent à être déposés des projets pour supprimer cette loterie. Et en fait, la décision pratiquement est prise en 1832, mais l'application ce sera effectivement en 1836 pour très longtemps.
Oui, très longtemps, un siècle en effet, jusqu'à ce qu'en 1933, les Français découvrent la loterie nationale et son premier gagnant, un coiffeur de Tarascon, Paul Bonnour. C'était le 7 novembre 1933.
Je déclare ouverte la séance du tirage de la première tranche de la loterie nationale. Dans la série 1, le numéro 18414 gagne 5 millions. Hier soir, je me suis couché comme d'habitude à 9h. Et à 11h du soir, M. le percepteur est venu me taper à la porte pour m'annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, M. Bonneau, qu'est-ce que vous allez faire de cette énorme-là? Ben, je n'en sais rien encore. Et le magasin, qu'est-ce que vous allez en faire aussi? Pour le moment, je compte le garder.
Ah, ça, c'est bien, alors. Mais alors, cette fortune, alors?
Je ne sais pas ce que j'en ferai.
Ah, ben, vous n'êtes pas encore décidé, quoi?
Non, je n'ai rien de gêné au contraire.
J'avais la belle, gagné les 5 millions, dans ma vie quotidienne, oh quelle transformation!
un soir je m'arrête, j'achète les journaux. Qu'est-ce que je vois en manchette? Mon numéro. J'arrive chez moi d'un bond, avec la joie dans l'âme, et je crie à ma femme, ça y est, nous les avons. Vous, à ma belle-mère, qui meurt de congestion, vous parlez d'une affaire, si je gagnais les 5 millions. Ma poison de pipelette, qui m'engueulait tout le temps, viendrait me faire des courbettes, il est un compliment. Mon cousin Philogène, qui m'a traité de cocu, viendrait me dire, j'espère, Eugène, que tu ne l'as jamais cru. Mes neveux Narbonne, qui se croient mes héritiers, chaque jour par téléphone m'interrogerait sur ma santé. Si j'avais la veine, gagnerais 5 millions. J'achèterais en Touraine un vieux château breton. Oh, quelle chose exquise d'avoir des bains chez toi pour se laver.
Si je gagnais les 5 millions, c'était Albert Préjean en 1934, un an après le premier tirage de la Loterie Nationale, qui connaît un succès énorme, Patrick Roger, grâce notamment à son premier vainqueur, Monsieur Bonnour, qu'on a entendu, et qui avait gagné le gros lot.
Oui, c'est très important pour ce type d'activité, la médiatisation des gagnants est vraiment la meilleure publicité. Et donc là, effectivement, premier tirage de la loterie, 5 millions, et le gagnant, je dirais, peut-être n'importe qui. Chacun peut se reconnaître en Paul Bonnour. Et donc évidemment, ça assure le succès de ce genre de jeu. Chacun se dit, ça pourrait être moi.
D'autant plus amusant que, je crois que vous le rappelez, Paul Bonnour avait demandé à quelqu'un qui travaillait avec lui d'aller acheter deux billets, et puis alors il était revenu avec les deux billets, puis il lui a dit lequel vous prenez, monsieur Bonnour, et il a dit écoutez, je prends celui que vous voulez, etc. Et c'était lui qui était tombé sur le bon numéro. Enfin, je crois qu'il lui a légué ensuite son salon de coiffure. En tout cas, c'est très différent quand même du loto d'aujourd'hui, d'abord parce que les billets sont imprimés, et alors qu'aujourd'hui on coche les numéros qu'on choisit.
Voilà, et donc à l'époque évidemment il y a peu ou pas du tout de concurrence, donc les gens qui veulent jouer à la Loterie Nationale, ils achètent des billets. Quand le buraliste est sympathique, vous pouvez choisir le dernier numéro en disant je veux que ça termine par un 3, par un 4, mais pour le reste le joueur est passif.
Et puis alors, autre chose qui est très importante aussi, c'est que les lots sont fixes, contrairement au loto d'aujourd'hui. Hein, le gros lot, on l'a entendu, il est de 5 millions, et cela, quel que soit le nombre des joueurs, si bien que ça représente, vous le rappelez Patrick Roger, un risque énorme pour les organisateurs.
Alors le risque est important, moins important qu'à la loterie génoise, mais important tout simplement parce que imaginez le cas de figure où seul Paul Bonnour a joué à la loterie. Oui. Et donc l'État encaisse le prix d'un billet et doit payer 5 millions. C'est une caricature, mais ça illustre un peu le problème des prix fixes.
Le problème étant évidemment un risque d'invendu. Alors justement, ça peut attirer quand même au début, parce que les billets, ils étaient très chers. C'était 100 francs, je crois. C'est la raison pour laquelle la Loterie Nationale a créé ces fameux dixièmes qui ont duré des années.
Oui, parce qu'en fait, les joueurs en général, ou les citoyens, sont des joueurs raisonnables. Et donc effectivement, investir une somme relativement conséquente dans un jeu de hasard, ça exclut de fait bon nombre de joueurs. Par contre, si on divise la somme à miser par 10, même si les gains sont divisés par 10, c'est déjà beaucoup plus attractif et certains peuvent jouer.
Alors cela dit, la Loterie Nationale, elle est quand même durée longtemps, y compris pendant l'occupation et l'ordre moral du régime de Vichy, qui n'allait pas jusqu'à interdire la loterie parce qu'elle était censée servir à de bonnes causes.
Paris, le capitaine Malfanti, trésorier général de l'association des ailes brisées, vient au ministère des Finances toucher le gros lot de la Loterie Nationale. Le colonel Moreau et le commandant Legendre qui l'accompagnent vont avec lui procéder à la répartition des 5 millions entre les possesseurs des dixièmes vendus par l'association des ailes brisées, qui a pour mission de secourir les victimes de l'air.
Elle vendait des billets de la loterie dans son kiosque aux trois couleurs. Elle avait charmé mon cœur, s'adressant aux passants de sa voix jolie. Elle disait d'un air gracieux, tentez votre chance monsieur, c'est aujourd'hui vendredi 13, vous pouvez gagner le million. Alors moi ne vous en déplaise, j'ai profité de l'occasion. Elle vendait des billets de la loterie, j'avais mes yeux dans ses yeux, j'étais l'homme le plus heureux.
La Libère, une chanson de 1943. La guerre et l'occupation n'ont pas arrêté la loterie, hein, Patrick Roger.
Non, pourtant, disons, un projet de loi avait été préparé pour interdire la loterie à partir de 1940. On a reporté l'application en 1942. Et évidemment, là, le gouvernement avait autre chose à penser que de supprimer la loterie.
Et puis, il y a toujours, on l'a entendu, les bonnes causes. Ça date pas de 1940. En 1940, c'était pour les ailes brisées. Je crois qu'à l'origine, d'ailleurs, c'était même le cas avant la loterie nationale, il y a toujours eu comme prétexte de servir que l'argent soit fourni à une bonne cause, Patrick Roger.
Alors, financer des hôpitaux, des édifices religieux, des universités américaines prestigieuses ont été financées par des loteries. Et la loterie nationale est arrivée, donc 15 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, sous l'impulsion de ceux qu'on a appelés les gueules cassées, donc l'Union des blessés de la face et de la tête, le nom officiel de l'association, tout simplement parce qu'un certain nombre d'anciens combattants avaient soit encore des problèmes de santé, soit je dirais des problèmes de réinsertion dans la vie sociale. Et donc, il fallait des financements pour aider tous ces gens. Et donc, la loterie nationale a pour origine, je dirais, essentiellement ces bonnes causes.
Alors, ces bonnes causes n'empêcheront pas quand même un certain déclin de la loterie nationale après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un concurrent redoutable qui apparaît, vous le dites, c'est le PMU et le tiercé.
Alors, le PMU apparaît, enfin, le tiercé plus précisément, apparaît en 1954. Et c'est un concurrent redoutable pour deux raisons. Le tiercé, c'est un jeu actif puisque les joueurs choisissent les numéros. Et le deuxième point, c'est que le développement du tiercé va se faire en même temps que celui de la télévision.
Alors c'est ainsi qu'effectivement on se dit il faut un peu rénover notre système de loterie, qui est inventé le loto, qui vient d'Allemagne, hein, je crois, le procédé, le
Alors,
jeu lui-même.
Le loto allemand est effectivement plus ancien, mais si on y regarde d'un peu près, il n'y a pas énormément de différence avec la loterie génoise. On reprend des principes qui fonctionne.
Et c'était donc à l'époque de Monsieur Giscard d'Estaing, avec son ministre des Finances, Jean-Pierre Fourcade. Et le premier tirage, donc, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 19 mai 1976, premier tirage qui faisait le lendemain, bien sûr, la une de l'actualité, France Inter, Michel Forgite, le 20 mai 1976.
Inter-dernière, Michel Forgite.
Si vous êtes parmi les 733 000 habitants de la région parisienne qui ont joué au loto national, le premier de l'histoire, écoutez bien ces chiffres. 31, 15, 33, 27, 36, 48 et le joker 34. Alors si parmi ces 6 premiers numéros vous avez coché sur votre grille au moins 3 d'entre eux, vous faites partie des heureux gagnants du loto. Ce premier tirage s'est déroulé sur la scène de l'Empire à Paris, sous le parrainage de M. Jean-Pierre Fourcade.
Il a gagné.
C'est vrai que le premier gagnant du loto, celui qui gagne toujours, c'est le ministre des Finances. Pas personnellement, bien entendu, mais enfin, je veux dire, c'est l'État. Le succès du loto en 76, Patrick Roger, était immédiat. Pour quelle raison?
Alors déjà parce qu'il y a eu un gagnant au premier tirage. Et puis on est passé dans une autre catégorie de loterie, ce qu'on appelle les loteries pseudo-actives. On choisit ces numéros, donc on a l'impression de contribuer, d'avoir une certaine influence sur sa propre chance. Et donc c'est très différent de la loterie nationale où là on est très passif. Et donc pendant les 8 premières années, donc jusqu'en 1984, effectivement le chiffre d'affaires va augmenter très rapidement et le loto va s'étendre à toute la France, puisqu'au départ on a une expérimentation là on tourne dans l'archive, ouais, sur la région parisienne, et ensuite ça va s'étendre à tout le pays.
Et puis alors ça va s'étendre aussi, puis ça va avoir tellement de succès que l'État, enfin la Française, ce qui va devenir la Française des Jeux, va procéder à, il y avait un seul tirage au début, puis un deuxième tirage le même jour, puis ensuite sur un autre jour deux autres tirages, on arrive à 4 tirages. Elle va inventer aussi de nouveaux jeux, cette Française des Jeux, parallèlement au loto. Alors, évidemment, est-ce que, si l'État gagne à tous les coups, quelles sont les chances pour un joueur de gagner le gros lot?
Alors là, c'est extrêmement simple, c'est une chance sur 14 millions de gagner les 6 numéros. Donc là, on a
14 millions de combinaisons.
14 millions de combinaisons, donc là, la probabilité est tout à fait claire, quelle que soit la combinaison que vous choisissez.
Ça dit, c'est un très gros lot, hein, évidemment.
Ça dépend, puisqu'on a vu des cas où une centaine de personnes avaient gagné le gros lot. Et comme c'est un jeu de paris mutuel, le gros lot est pas tout à fait aussi gros qu'on peut l'attendre.
Parce qu'il y a des numéros qui sortent plus souvent. J'ai vu que, par exemple, le 45, c'était le record. Depuis 76, il est sorti 635 fois. Le 29, en revanche, beaucoup moins de chance, 539 fois. C'est quand même 100 fois de différence, c'est quand même beaucoup. Il y a d'autres formules, donc je le disais, tac au tac, minuet. Il semble que les Français s'intéressent de plus en plus au jeu, jouent de plus en plus, pas seulement d'ailleurs au loto. Quelle est, alors que l'espérance de gain, après tout, est-ce que c'est la seule raison de ce que vous appelez, vous, Patrick Roger, la lotomania?
Effectivement, la part du budget des ménages qui est consacré au jeu a tendance à être en augmentation. Ceci dit, je pense qu'il faudrait une analyse un petit peu plus fine par rapport aux conditions économiques. On dit souvent, finalement, quand les conditions économiques sont difficiles, les gens ont besoin de rêver et donc ils vont consacrer plus d'argent au jeu. Bon, scientifiquement, cette liaison n'est pas prouvée. Par contre, une autre interprétation personnelle, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus sécurisé, voire sécuritaire, et peut-être que le jeu, c'est une façon de prendre des risques dans un monde qui est très aseptisé.
Votre livre, c'est pas une histoire, c'est le début de votre livre qui est une histoire du loto, Patrick Roger, ou de la loterie. Mais vous, alors, c'est un livre, Lotomania, c'est approche scientifique du jeu et du comportement des joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de nous donner la combinaison du prochain tiercé, du prochain loto, pardon?
Non, d'ailleurs, le sous-titre s'appelant « Approche scientifique », ça répond immédiatement à votre question, hein, puisque j'ai testé sur 25 AD de résultats, les tirages sont effectivement aléatoires. Donc, ça n'est pas la peine d'essayer de deviner la prochaine grille gagnante. Par contre, dans le livre, justement, on étudie les combinaisons les plus jouées, et ça permet éventuellement d'augmenter la rentabilité moyenne, toujours par le principe du pari mutuel. Si vous jouez la même chose que le voisin, vous allez devoir partager avec lui.
Est-ce que ça veut dire que vous jouez au loto, Patrick Roger?
Ça m'arrive.
Ça vous arrive?
Je ne suis pas un joueur addictif, mais je suis un joueur occasionnel.
Merci. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, Lotomania, publié aux éditions Village Mondial, et signé donc pour mon invité d'aujourd'hui, Patrick Roger. Vous avez pu en entendre un extrait du film Le Jeune Casanova de Giacomo Battiato, disponible en DVD chez France Télévisions, ainsi que deux archives pâtées de 1933 et 1940, issues d'une collection dont on vous parle souvent, Le Journal de votre année, édité en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Alain Arnstam, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac. Fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, Christophe Colomb. Mardi, un procès du darwinisme qui a fait grand bruit aux États-Unis il y a 80 ans, le procès du singe. Mercredi, une histoire de la peste. Jeudi, jour de l'Ascension, les premiers chrétiens. Et enfin vendredi, avec Yves Lacoste, l'histoire d'un concept inventé au XXe siècle mais qui a dicté la politique des États depuis l'Antiquité, la géopolitique. Il est 14h30 sur Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
Oh ta gueule, fichier!
Amis de la musique.
Musique Express.
Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
Eric Oswald.
Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant.
Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express pour la dernière de la semaine. Nous sommes vendredi, nous conclurons comme chaque vendredi avec un titre long, bien long d'ailleurs, plus de 13 minutes, 13 minutes et 34 secondes pour être précis. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être Peter Frampton, cet excellent guitariste qui en 1976 sortait un double album live qui reste le live le plus vendu au monde, Frampton Comes Alive, et nous écouterons le mythique Do You Feel Like We Do pour conclure l'émission. Nous serons auparavant passés par l'enregistrement de l'émission d'Isabelle Dordain, Le Pont des Artistes, qui recevait ce mercredi Pascal Parisot, ou plutôt Radiomatique, Dorval, Bertrand Louis et Barbara Carlotti. Mais pour commencer, une petite leçon de verlan. Comment dit-on tango en verlan? Tango, Gotan, Gotan, Gotan Project.
En el mundo habrá un lugar.